Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Prenez des captures d'écran d'iOS parce que vous ne reconnaîtrez peut-être plus le système dans quelques mois. Apple serait en train de préparer la plus grosse refonte visuelle d'iOS, mais aussi de macOS depuis des années. Pourquoi se lancer dans un si gros chantier? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, le Siri plus personnel d'Apple Intelligence est officiellement retardé, les ventes d'Apple Watch reculent de manière spectaculaire et l'application carte vitale est généralisée ou presque dans toute la France. Nous sommes le samedi 15 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Plein de nouveaux produits Apple sont arrivés ce mercredi, l'iPad A16, les iPad Air M3, les MacBook Air M4 et les nouveaux Mac Studio. On a commencé à tester tous ces nouveaux produits. Vous devriez voir les tests sur Mac Génération et iGénération à partir de la semaine prochaine. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bonjour à tous. Oui, ça va très bien et toi ?
Ça va, bah j'ai un petit rhume là qui m'embête, mais bon, à part ça, ça va, c'est pas très grave. Il y a un truc qui te fait envie parmi tous ces nouveaux produits là qui sont sortis ?
Bah, j'allais te poser la question, faut acheter quoi ? Mais alors ce MacBook Air en bleu par exemple, ça donne quoi ?
Ah, je suis pas fan du nouveau coloris bleu, je préfère les autres couleurs. Mais bon, c'est un bleu très un peu pastel. Des fois, tu vois pas trop que c'est un bleu en fait.
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en voyant les photos. Et cet iPad Air, bon, bah, j'imagine qu'il n'y a pas forcément.
Ouais, non, l'iPad Air, c'est vraiment la puce M3 qui a changé par rapport à la puce M2. Donc le test devrait être rapide à faire quand même. Et puis le Mac Studio, bah c'est Nicolas qui est en train de tester ça. Je sais qu'il fait beaucoup de benchmarks avec notamment aussi des modèles de langage. Donc ça sera intéressant à voir.
Mais pour répondre à ta question, un jour il faudra que je renouvelle mon iPad Pro. Ouais. J'ai presque envie de dire sa batterie parce que c'est un petit peu un mal récurrent. D'ailleurs, c'est aussi le cas de mon iPhone qui commence à se faire vieux. Donc voilà, si j'avais acheté quelque chose, je pense que je lorgnerais plutôt du côté de l'iPad Air. Mais toi, en tant que grand fan du MacBook Air, cette puce M4, ça te dit quelque chose ? Et est-ce que Florian, ça lui dit aussi quelque chose pour enfin sauter le pas et aller rentrer dans l'air Apple Silicon ?
Alors, par rapport à ce que tu disais sur l'iPad Air et l'iPad Pro, alors effectivement, l'iPad Air, là, il a une puce M3, il a 8Go de RAM, donc il est super puissant. Mais ce qui me dérange un petit peu par rapport à l'iPad Pro, parce que j'en avais un aussi, alors il est tombé en panne malheureusement, mais j'avais un modèle de 2018, les premiers avec les nouveaux designs, là. Et l'iPad Air, il n'y a toujours pas d'écran ProMotion. Et je trouve qu'en plus, l'écran ProMotion, tu le vois particulièrement bien sur l'iPad, ça te voit encore plus que sur iPhone. Donc ça, c'est quand même une régression si tu viens d'un iPad Pro. Et puis, écoute, ce que pense Florian des MacBook Air M4, je sais pas trop encore. Il a regardé avec attention le nouveau coloris bleu. Je sais pas s'il va jeter son dévolu là-dessus. Mais non, mais c'est par rapport au MacBook Air M1. Moi, j'ai un MacBook Air M1 actuellement qui tourne toujours très bien, mais c'est sûr que voilà, d'année en année, quand même, il y a eu pas mal d'améliorations dans les MacBook Air, et là, ça vaut le coup par rapport à un MacBook Air M1.
Quand tu additionnes. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais le MacBook Air M1, c'est quoi ? Il a.
C'était 2020.
4 ans. Ouais, c'est ça. Donc, il a un peu plus de 4 ans. Et on a toujours l'impression d'avoir dans les mains une machine très rapide. Et puis, j'imagine que quand on va faire les benches entre un MacBook Air M1 et les nouveaux MacBook Air M4, y a quand même un sacré fossé, hein, parce que les puces d'Apple n'ont pas arrêté de progresser.
Ah oui, c'est sûr. Là, maintenant, tu as un fossé qui est important. Et puis, mis à part la puissance, il y a aussi la nouvelle webcam. Il y a aussi le nouveau design, même si le nouveau design, je suis toujours pas fan de ce design qui ressemble un peu au mini MacBook Pro. Mais il y a un paquet de choses qui font que maintenant, l'investissement dans un nouveau MacBook Air peut valoir le coup.
Donc, pour résumer, il y a plein de tests dans les tuyaux. Alors, si vous n'êtes pas abonné au Club iGen, c'est le moment de prendre un abonnement.
Absolument, oui. La première grosse info de la semaine concerne iOS 19 et macOS 16. Apple serait en train de préparer une toute nouvelle interface utilisateur pour ces systèmes. Alors ce n'est qu'une rumeur pour le moment, mais c'est une rumeur qui vient de Mark Gurman, donc elle est à prendre au sérieux. Cette nouvelle interface serait vaguement inspirée de Vision OS, le système du Vision Pro qui fait la part belle aux rondeurs, à la translucidité et aux effets de relief. Les applications Apple Sport et Apple Invitation, qui sont très différentes des autres, nous donnent peut-être une idée de la voie qui va être prise sur iOS. Il s'agirait vraiment d'un ravalement de façade complet, du genre d'iOS 7 qui est sorti en 2013. Mais pourquoi Apple voudrait se lancer dans un si gros chantier, Christophe ?
Parce que... Non, mais il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Alors tout d'abord, les interfaces d'iOS et macOS n'ont pas trop changé depuis des années, donc passer un petit coup de balai de temps en temps, ça fait pas de mal. L'autre chose, c'est qu'Apple a quand même dû investir quelques milliards dans le Vision Pro, peut-être même une bonne dizaine de milliards, j'ai pas le chiffre en tête, mais ils ont appris des choses avec le Vision Pro, ils ont innové et veulent sans doute en faire profiter les autres appareils de la gamme. On avait assisté d'ailleurs au même phénomène avec l'Apple Watch et WatchOS, certaines choses étaient remontées petit à petit dans iOS et macOS. L'idée est également de rendre l'ensemble des produits Apple le plus cohérent possible. Alors avoir une interface similaire entre les différents produits, cela peut encourager à en acheter d'autres. Ça, Apple aime bien. Et puis, communiquer sur une toute nouvelle interface, c'est pratique pour cacher la poussière sur le tapis. On est à la ramasse sur l'IA ? Non mais attendez, regardez comme ils sont beaux les nouveaux boutons du Finder là. Wow, magnifique ! Regardez ce petit effet là qui bouge. Voilà, alors juste un truc au passage... Souvent, quand Apple renouvelle les interfaces de ses produits, de ses logiciels, c'est assez souvent synonyme de peu de nouveautés marquantes. On l'avait vu avec WatchOS 10, c'était tout nouveau, mais les applications incluses dans le système avaient très peu évolué. Vous voilà prévenu pour la WDC. Bref, cela permet à Apple de beaucoup communiquer sur quelque chose de visible afin de faire oublier les petites difficultés qu'elle rencontre avec Apple Intelligence notamment.
Bah écoute, on va en parler, c'est le deuxième gros sujet de la semaine, c'est une demi-surprise. Le Siri plus personnel d'Apple Intelligence est repoussé de plusieurs mois. Alors c'est dans l'air depuis un petit moment, mais là, Apple l'a officialisé le vendredi soir de la semaine dernière. Bah, les vendredis soirs, hein, c'est les meilleurs moments à chaque fois pour cacher la poussière sous le tapis. Alors depuis le lancement d'Apple Intelligence, Siri a quand même reçu quelques améliorations. Il a une nouvelle interface, il s'utilise plus facilement par texte, il a des nouvelles voix plus naturelles et il connaît mieux les produits Apple. Mais finalement, c'est ce qu'on attendait le plus qui n'arrivera pas avant iOS 19, voire l'année prochaine. Apple avait montré à la WWDC et dans une pub également un Siri qui était capable de prendre en compte des données personnelles et d'interagir avec plusieurs applications. Par exemple, ce Siri savait répondre à la question « À quelle heure atterrit l'avion de ma mère ?» Mais alors cette démo, c'était du pipeau.
C'est d'ailleurs là où je suis quand même un petit peu en désaccord avec mes camarades. Je vous invite d'ailleurs à écouter le dernier épisode de Kernel Panic qui fait le bilan d'Apple Intelligence. Et je crois que c'est Anthony qui disait que dans la course à l'IA, il estimait qu'Apple n'était pas forcément... était dans la course, on va dire, justement. Moi, enfin, je suis peut-être un peu plus pessimiste que lui, à mon avis. Elle est soit bien à l'arrière du peloton, soit juste devant la voiture balai. J'ai franchement un peu de mal quand je vois la démo d'Alexa Plus. Alors certes, c'est une démo, mais le produit, lui, doit sortir d'ici quelques semaines. Et que de l'autre, je vois que le nouveau Siri... Alors on entend un peu tout d'ailleurs sur les dates. Il y en a qui parlent de 2026, d'autres même qui disent ça se trouve ça sera en 2027. Enfin bref, quand je vois ce que Gemini peut faire depuis pas mal de temps et que Gemini est un petit peu en avance sur Alexa déjà... et que Siri a toujours autant de mal avec des choses basiques, bah, que dire, je suis un petit peu embêté. Mais je suis tout à fait d'accord avec Gruber, qui a poussé un sorte de coup de gueule, alors que c'est plutôt quelqu'un d'assez mesuré, et qui a dit que le nouveau Siri montré en 2024 n'a été qu'une fable et une fumisterie. Personne n'a vu ce Siri fonctionner. Même dans les démos organisées par Apple auprès des journalistes à la WDC, ou lors du lancement des iPhone 16. Dans l'état, on a l'impression que c'est un fantasme marketing qui a pris l'apparence d'une publicité, de quelques démonstrations très orchestrées lors d'un keynote. Et d'ailleurs, c'est là où les nouveaux formats de keynote sont d'ailleurs très, très, très pratiques, parce que le nouveau Siri aurait peut-être eu des difficultés lors d'une démonstration, d'une vraie démonstration avec le public tout ça. Bref, voilà, c'est pas brillant, on rappellera, enfin, il faut quand même se rappeler qu'au début, Siri était leader de ce marché, hein. Et là, on a l'impression qu'Apple est complètement à la ramasse. Alors, il y a eu quelques comparaisons qui ont été faites, notamment avec AirPower. Mais moi, je trouve que c'est plus pertinent de comparer ce fiasco avec celui de Plan, dont le lancement avait été pour le moins difficile. Alors oui, Plan était un produit bourré de défauts à son lancement, mais lui, au moins, il avait le mérite d'exister. Et malgré cela, lorsqu'il avait été lancé, ça avait eu beaucoup de conséquences. Forstall, qui avait refusé de s'excuser, avait fini par être remercié. D'ailleurs, quelques années plus tard, Apple avait reconnu que ce fiasco avait été riche d'enseignements. Alors j'ai retrouvé une déclaration de Tim Cook, je vais vous la lire, parce que je la trouve assez intéressante. Nous n'avons jamais dit que nous étions parfaits. Nous avons dit que c'est ce que nous cherchions à être. Mais parfois on se trompe. La chose la plus importante, c'est « Avons-nous le courage d'admettre que nous nous sommes trompés ? Et comment allons-nous changer ça ? La chose la plus importante pour moi, en tant que CEO, c'est que nous conservions ce courage. » Eh bien, cet épisode montre que Apple a peut-être perdu ce courage. Au lieu de dire devant la presse Siri, c'est plus compliqué que prévu, ça marche pas comme on veut, on n'y arrive pas, mais attendez, patientez, on va revenir très fort et vous allez voir, ça va être super, au lieu de le dire publiquement. Apple a discrètement enlevé ici ou là les traces de ce nouveau Siri sur son site web, a retiré la publicité sur YouTube et s'est contenté, comme tu dis, d'un très bref communiqué de presse à Reuters, de préférence le vendredi soir. Mais c'est pas tout. Histoire de faire diversion, on apprend 3 jours plus tard, via Mark Gurman, comme par hasard, qu'Apple va revoir l'interface de ses produits cette année. Vous allez voir, c'est ouais. Ça va être un truc énorme. C'est quand même un peu grossier comme ficelle, et je crois que personne n'est dupe à la fin.
On va maintenant parler un petit peu de l'Apple Watch, qui n'a plus autant la forme qu'à une époque. D'après les analyses de Counterpoint, le nombre d'unités vendues a baissé de 19% sur un an en 2024. Apple reste le numéro 1 du marché, mais cette chute contraste avec Huawei ou Xiaomi qui ont réussi pour leur part à améliorer leurs ventes. Apple a pourtant lancé l'année dernière la série 10 et puis elle avait élargi la gamme avant avec l'Ultra. Est-ce que le moment est venu de prendre des mesures radicales pour faire repartir les ventes? Je pense par exemple à rendre l'Apple Watch compatible avec Android.
Je te dirais que c'est presque trop tard, mais bien sûr, la non-compatibilité avec Android est un frein, c'est certain. Alors, là, ce que je veux dire, je tiens vraiment à insister sur un point, les deux sociétés ne jouent absolument pas dans la même cour. Mais Garmin, depuis quelques trimestres, enchaîne à nouveau les bons résultats. Mais justement, si je prends cet exemple, c'est qu'il y a une raison. La différence entre ces deux sociétés, c'est que chez Apple, l'Apple Watch, c'est quasiment la dernière roue du carrosse, alors que chez Garmin, ça reste l'activité principale. Ouais. Si les ventes d'Apple Watch progressaient de 30 ou 40%, ce serait quand même un beau chiffre de croissance, cela aurait un impact relativement faible sur les résultats d'Apple. Alors, voilà, pour expliquer ce recul, cette stagnation, bon, tout d'abord, la gamme n'est pas souvent mise à jour. L'Apple Watch SE a quasiment 3 ans. WatchOS évolue bien, mais à un rythme d'escargot. Et il n'y a pas non plus d'évolution significative sur le hardware. Alors peut-être que la piste serait de proposer d'autres form factors, un simple bracelet moins invasif à la manière du Whoop, ou une bague, on en parle de temps en temps. Mais ça ne semble pas être dans les cartons d'Apple. Et puis je suis pas certain que les ventes de ces produits rentreraient dans ces catégories. Mais bref. Alors maintenant qu'on a bien noirci le tableau, il faut quand même malgré tout dire qu'Apple reste leader de ce marché et d'assez loin. Que l'absence d'innovation est une thématique qui revient souvent en ce moment chez les autres constructeurs de montres. Bref, c'est vrai qu'on a l'impression de vivre une période de stagnation. Mais bon, c'est peut-être que provisoire. Et lorsqu'il y aura de nouveaux capteurs, les ventes décolleront peut-être.
On va terminer le tour de l'actu avec la généralisation d'une application attendue de longue date. L'application carte vitale qui permet d'avoir sur son smartphone une version dématérialisée de sa carte vitale. Donc, depuis l'année dernière, cette application était utilisable dans une vingtaine de départements. Dorénavant, on peut l'activer dans n'importe quel département, mais il y a une condition. Il faut avoir l'application France Identité. L'app du gouvernement sert en effet de nouveaux moyens d'identification. Et pour avoir France Identité, il faut la nouvelle carte d'identité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, quoi qu'il en soit, cette nouveauté élargit tout de même la disponibilité de l'application carte vitale. Mais est-ce qu'on peut utiliser celle-ci partout ?
C'est quand même toi le bêta-testeur de la rédac. Est-ce que tu as pu l'utiliser quelque part ? Dis-nous tout.
Alors, j'avais fait partie de l'expérimentation. C'était fin 2023, donc ça remonte un petit peu. Je m'étais baladé avec ma carte vitale chez mes différents professionnels de santé. Chez mon médecin n'acceptait pas l'application. Parce qu'il faut savoir en fait que l'application est différente de la carte physique, évidemment. On n'a pas de carte physique, mais donc c'est un QR code qu'il faut présenter à son professionnel de santé. Et tous les professionnels de santé ne sont pas encore équipés de lecteurs de QR code. Donc mon médecin n'en avait pas, mon kiné n'en avait pas non plus. À la pharmacie, par contre, il y avait bien un lecteur de QR code, mais quand j'ai présenté ma carte vitale, il y avait eu un bug, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais bon, en fait, du coup, ça n'avait pas marché. Et j'étais bien obligé d'avoir toujours ma carte vitale physique avec moi pour utiliser la carte vitale, quoi.
Mais je pense que c'est les pharmacies qui devraient, en premier lieu, prendre rapidement en charge ce mécanisme.
Absolument, donc... ouais, j'avais interrogé plusieurs représentants de médecins, de pharmacies. On m'avait expliqué que pour les pharmacies allaient sûrement vite s'y mettre parce qu'elles ont l'habitude déjà de renouveler assez régulièrement leur équipement. Et l'application carte vitale est pour elle intéressante parce que, en fait, avec l'application carte vitale, les données de ta carte vitale sont toujours à jour, ce qui n'est pas toujours le cas avec la carte vitale physique, qui est mise à jour seulement quand tu la donnes à un professionnel de santé. Et donc pour les pharmacies, il y a un vrai intérêt à ce que les utilisateurs aient une carte vitale à jour et toujours avec eux dans leur smartphone. Par contre, au niveau des médecins, voilà, on m'avait clairement dit que le renouvellement de l'équipement, ça ne faisait pas partie des priorités des médecins qui avaient d'autres chats à fouetter.
Donc, lorsqu'on veut, on télécharge l'application carte vitale. À un moment donné, on s'identifie avec France Identité, voilà. Pour dire, regardez, bah, c'est bien moi, tout en scannant sa carte vitale. C'est comme ça que ça marche, grosso modo.
Voilà, c'est ça. Au début, il faut indiquer son numéro de sécurité sociale. Et puis après, on s'identifie avec France Identité. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'apparemment, il y avait encore quelques bugs, peut-être au niveau des prénoms avec les tirets ou des choses comme ça. Alors... Faut essayer et puis peut-être attendre encore un petit peu que le système soit bien rodé. Ouais.
Et donc, il faut aussi préciser que cette application ne sert pas qu'à afficher la carte vitale. Elle liste notamment aussi les différents frais associés qu'on a pu avoir, je sais pas, en pharmacie ou chez les médecins ou je ne sais qui. Et moi, j'ai juste une petite question. Enfin, ça paraît logique que ça ait été fait comme ça, mais est-ce que c'est mieux d'avoir deux applications distinctes, donc une application France Identité et une application carte vitale, ou est-ce que ça aurait pu être tentant de faire une grosse app, mais peut-être aussi une usine à gaz?
Alors oui, c'est le reproche de beaucoup de personnes. Pas mal de personnes voudraient avoir en fait une seule et unique app, France Identité. D'ailleurs, il y a eu un peu une confusion à propos de ça dans la presse l'année dernière. En fait, il n'est pas question de fusionner les deux applications. Mais France Identité, comme maintenant permet de le faire, sert uniquement de passerelle d'identification. Et en fait, bah, ces deux applications qui ont été lancées en parallèle, par des organisations parallèles, pour le moment, il n'est pas question de fusionner les deux, parce qu'il y a aussi des problématiques de sécurité. En France, la carte vitale est distincte de la carte d'identité. Il n'est pas question de rassembler les deux. Pour différentes raisons de sécurité, de confidentialité.
D'accord. Bon, ben, il ne reste plus qu'à tester tout ça. Tâche quand même pas de tomber malade exprès avec ton petit rhume pour tester ta carte vitale. Ce n'est pas la peine, ça peut attendre, ce n'est pas pressé.
Ok, bon, très bien. Je vais essayer de me remettre sans aller voir le médecin alors. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Je te souhaite un bon week-end.
Eh bien, merci à toi. Repose-toi bien et bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, et puis n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou une autre plateforme de podcast si vous appréciez la sortie de veille. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!